Avant de commencer le thème par cette prédication, je voudrais qu'on écoute deux paroles prophétiques reçues par Eliana. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu que vos fils et vos filles prophétiseront. Et là, Eliana, cette semaine, m'a envoyé un message avec deux paroles prophétiques, une première très courte, mais la seconde, je vous demande de tendre l'oreille, c'est vraiment important.
J'ai eu deux pensées lors du culte de dimanche 1er septembre. La première est qu'à chaque fois que l'on veut être dans une relation avec Dieu, on ne voit que les obligations au lieu de voir les récompenses. Et la deuxième, c'est que, imaginons que Dieu est un écrivain. Il écrit un grand livre, ce livre qui représente notre vie, selon ce que Dieu a prévu, bien entendu. Nous, nous sommes des réalisateurs qui veulent mettre vie à ce livre, qui veulent en faire un film. Comme tous ceux qui réalisent des films à partir de livres, ils changent un peu l'histoire, un peu le scénario, et la plupart du temps, ceux qui ont lu le livre, en voyant le film, sont un peu déçus. C'est la même chose dans nos vies. On n'accomplit pas toujours ce que Dieu veut, on modifie un peu le livre qui est notre vie. Alors Dieu est un peu déçu. Alors qu'allons-nous faire? Soyons comme le livre, l'original et l'unique exemplaire qu'est notre vie.
Intéressant. Très intéressant. Vous allez là par la bouche d'une jeune femme, une jeune fille, une jeune femme. Ça fait drôle de s'écouter, hein, hein? On n'aime pas, hein? Tu verras. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que par la bouche d'une jeune femme, Dieu est en train d'interpeller son peuple. Il est en train de dire, j'ai écrit quelque chose dans le livre de vos vies pour que vous soyez comme ça, pour que vous fassiez ceci, pour que vous fassiez cela. Et je trouve même l'interprétation prophétique d'Eliana très douce quand elle dit que Dieu est un peu déçu. En fait, je dis que Dieu est triste lorsque dans la vie de quelqu'un, il écrit des choses et lorsque la personne fait à côté de ce que Dieu voudrait qu'elle fasse. Et tous les parents qui sont ici pourraient exactement dire la même chose. Le jour où votre enfant a fait le contraire de ce que vous avez demandé, ça peut provoquer de la colère dans certains cas. Moi, ça m'est arrivé. Leurs fesses s'en souviennent encore. Mais souvent, le sentiment qui est revenu en moi, qui est venu en moi, lorsque mes enfants n'ont pas toujours fait ce que je leur demandais, c'est un grand sentiment de tristesse, de déception et de tristesse. Donc je vous laisse réfléchir sur cette parole prophétique. Pourquoi? Parce qu'elle va être un peu le fil conducteur de ce que je vais apporter ce matin. Parce qu'en réalité, quand je vous pose la question, tout posséder en Christ, je vous pose la question ce matin, est-ce que vous possédez vraiment tout en Christ? Il est écrit pourtant dans la parole, en Romains chapitre 8, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il y a une certitude que nous devons savoir, que nous devons connaître et vivre. Comme Jésus a dit, vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père vous donnera aussi de bonnes choses. Voilà, en résumé, ce que Jésus dit. Il y a une certitude, c'est que nous sommes prédestinés à posséder toutes choses en Christ. Tout! Parce que tout a été accompli en lui. Parce que le Père nous a montré la plus belle preuve d'amour qu'il pouvait nous donner. Alors tu peux peut-être rechercher après l'amour de Dieu, je suis désolé de te le dire, mais cherche-la dans ce que Dieu a fait. Et Dieu a envoyé son propre Fils, afin que tu puisses posséder toutes choses en lui, en Christ, par lui. Mais est-ce qu'on possède tout dans nos vies? Nous avons chanté tout à l'heure, Dieu a délivré son peuple pour la vraie liberté. Nous l'avons chanté, non? Qui est convaincu d'être dans une véritable liberté? D'être libre de tout en Christ? Parce que quand il est écrit qu'il ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui, clairement, la liberté me l'a donnée en Christ. Mais est-ce que je l'ai vraiment? Je vous parlais de schizophrénie spirituelle la semaine dernière, au risque de vous choquer, mais parfois nous fonctionnons comme ça. Nous chantons des choses, mais Dieu a délivré son peuple pour la vraie liberté. Et quand nous regardons notre propre vie, nous voyons que nous sommes encore liés, soit par des pensées, soit dans notre corps, soit dans notre âme. Nous sommes liés et nous ne sommes pas libres. Or, il est écrit que Dieu veut nous amener et nous sommes prédestinés à posséder toutes choses en lui. Mais si nous ne possédons pas toutes choses en lui, alors que devons-nous faire pour posséder ces choses? Que devons-nous faire? C'est la grande question. That is the question. Comme dirait mon ami anglais. Le pays de Canaan, à la sortie d'Égypte, Canaan devait être en réalité le pays de la possession et de l'accomplissement des promesses de Dieu. Le peuple était esclave en Égypte, et Dieu voulait faire entrer dans une pleine possession de ses promesses. Canaan, ça représente normalement, selon Dieu, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Canaan, ça représente normalement ce que je suis appelé à vivre lorsque je suis né de nouveau, lorsque je deviens enfant de Dieu, lorsque je suis appelé à posséder toutes choses en lui. Canaan, ça représente ça. Et voici ce que Dieu dit, j'enverrai devant toi un ange. Dieu dit, j'enverrai devant toi un ange, je te conduirai à travers tout ce chemin. Je serai avec toi, il est en train de dire à son peuple. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se pensent peut-être, ou croient peut-être que Dieu n'est peut-être pas à côté d'eux. C'est tout le contraire de ce que vous pouvez croire ou penser. Dieu veut nous amener dans la liberté, il nous a promis qu'il serait avec nous. Et je chasserai les Cananéens. Et toute la liste, je vous passe toute la liste. Monte, regardez ce qu'il dit. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Canaan est le pays où coule le lait et le miel. Je suis désolé, mais si moi je suis né de nouveau, j'espère que vous l'êtes aussi, si vous ne l'êtes pas, réfléchissez-y. Parce que vous naissez de nouveau le jour où vous recevez Christ dans votre vie. Mais si je suis né de nouveau, normalement, ce que je mange, ce que je bois, c'est le lait et le miel de Dieu. C'est la vie de Dieu, c'est l'abondance de Dieu. Et le peuple devait entrer dans cela, chasser les nations et détruire tous les dieux étrangers de ces nations-là. Et ces nations représentent en réalité toute la puissance du péché et toutes les puissances démoniaques qui agissent. Et dans nos vies, ces Canaan, ces nations représentent tout ce qui nous lie encore dans le péché, tout ce qui nous lie encore dans nos émotions, tout ce qui nous lie encore dans nos croyances, dans nos pensées, dans notre corps, tout ce qui nous lie. Or, Dieu veut t'amener dans le pays où coule le lait et le miel, pas dans le pays de l'amertume, pas dans le pays où tu es, entre guillemets, possédé par des choses, pas dans le pays où tu es lié par des choses. Ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Et lorsque nous entendons cette parole prophétique, que Dieu a écrit un livre dans chacune de nos vies et qu'il veut nous donner des choses, sachez une chose, c'est que ce qu'il a écrit est sans doute bien loin de ce que vous vivez aujourd'hui, de ce que nous vivons aujourd'hui. Et il y a un constat. Alors les petits gars sont sortis d'Égypte. Déjà, ça n'a pas été simple dans le désert, vous le savez. Et ils arrivent dans le pays de Canaan. Et là, vous allez voir la réaction de Dieu et la tristesse de Dieu. Parce qu'il n'est pas un peu déçu, le Seigneur. Il est carrément triste. Triste, parce que ce n'était pas le livre qu'il a écrit. Ce n'est pas ça qu'il a prévu. Un envoyé de l'Éternel monta de Guilgal à Bokim. Et il dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Donc en gros, je t'ai arraché à ton ancienne vie, ta vie d'esclavage. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Je t'ai fait naître de nouveau. Et j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Entendez, vous ne ferez point alliance et vous renverserez leurs autels. Vous n'avez point obéi à ma voix, dit le Seigneur. Pourquoi avez-vous fait cela? Tous les parents ici diront qu'un jour, ils ont dit à leur enfant, au moins une fois, mais pourquoi tu as fait cela? Et le père, le cœur du père crie et il pleure. Et il dit, mais pourquoi tu fais cela dans ta vie? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et il pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, qui veut dire pleureur. Et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. C'est un triste constat. Un livre a été écrit pour ce peuple. Un livre est souvent écrit dans nos vies. Et Dieu dit, je te demande maintenant de faire en sorte que tu obéisses, que tu fasses ce que je te demande, que tu entres dans mes promesses, que tu entres dans ma bénédiction. Et il dit, mais pourquoi tu fais le contraire de ce que je te demande, mon fils? Pourquoi tu fais le contraire de ce que je te demande, ma fille? Parce qu'en réalité, vous savez ce qui est en train de se passer? Le peuple pleure parce qu'il fait le constat de quelque chose. Un, le constat qu'il est en décalage par rapport au livre de sa vie. Mais l'autre, c'est qu'il a attristé le cœur du Père. Et à chaque fois que nous sortons du cadre, à chaque fois que nous faisons ce que nous avons envie, vous savez, je dis souvent en plaisantant, et j'utilise cette expression du Nord qui dit « un pourchaud qui fait asmode, c'est moitié de sa nourriture ». Mais en réalité, à chaque fois que je me conduis comme un pourceau, comme un porc, ok, c'est la moitié de ma nourriture, ça me fait du bien, mais ça attriste le cœur du Père. Triste constat. Alors qu'il devait posséder, vous imaginez, Dieu leur dit, vous allez aller dans le pays où coule le lait et le miel, mais je vous demande de faire ceci, cela, cela. Je vous demande de chasser les nations. Je vous demande d'abattre les autels. Je vous demande, parce que si vous faites cela, vous posséderez vraiment. Mais si vous ne faites pas cela, vous ne posséderez pas. Vous serez en Canaan. Mais vous deviendrez comme Canaan. Et c'est pourquoi parfois vous pouvez rencontrer dans votre propre vie, ou parfois des chrétiens, nous rencontrons des chrétiens qui sont touchés un jour par la grâce, par la croix, par la vie de Dieu. Ils donnent leur vie au Seigneur. Ils entrent dans la liberté. Ils entrent vers le pays promis. Et une fois qu'ils entrent dans la promesse de Dieu, ils retournent à ce qu'ils avaient vomi. Et ils finissent par devenir parfois pire qu'ils n'étaient en Égypte. Ouais, oui. Je sais, ça vous fait pas plaisir ce que je suis en train de dire. Mais c'est ce que nous sommes souvent. Alors comment cette désobéissance s'est-elle concrétisée? Alors au début de la conquête de Canaan, vous lisez le livre des Juges et vous verrez. Au début de Canaan, il y a deux tribus qui vont s'unir. Il y a une coalition entre Judas et Siméon, comme le porte salut. Et ça, ils s'unissent. Et Judas va voir Simon et dit, hey les gars, on y va ensemble, on se tient ensemble. Et on y va et on va remporter, on va prendre le pays promis. Dieu nous a fait cette promesse et on va l'atteindre, on va le posséder. Ça c'est déjà une chose, je prépare le message de la semaine prochaine. Souvent les gens pensent qu'ils peuvent obtenir les promesses de Dieu en y allant seuls. Or, je vous le rappelle, quoi qu'il arrive, que c'est au sein même du corps, au sein même d'un groupe de chrétiens ensemble que nous possédons les promesses. C'est l'unité dans le combat qui amène l'acquisition des promesses de Dieu. Alors peut-être que tu te dis ce matin, j'en ai rien à faire des autres. Et encore, je suis poli quand je dis ça. Que j'ai pas besoin des autres. Moi, je peux vivre ma foi tout seul. Moi, je peux vivre en dehors de l'Église. Fais ce que tu veux, mais c'est pas ce que me dit la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, mets-toi à côté de quelqu'un. Prends, fais alliance avec lui. Il a des faiblesses, tu as des faiblesses. Et mais ensemble, vous serez forts. Et ensemble, vous allez réussir à conquérir tout ce que Dieu vous a donné de vivre. Mais ensuite, il est dit que les tribus, ça c'est le triste constat. Et vous lisez le début des livres des juges. Ils ne dépossédèrent point. Ils refusèrent de déposséder. Ils voulaient cohabiter. Vous savez, il y a eu un temps en France, on a fait la cohabitation. Point. Ils ne dépossédèrent point les nations qui s'y trouvaient. Ils finirent par une cohabitation entre le peuple de Dieu et les peuples de Canaan. Conséquence de cette désobéissance. Ils ont commencé permissivité, je ne sais pas si ça se dit, avec le péché. Mélange par le mariage et par la culture et les coutumes. C'est-à-dire que la mentalité du monde dans lequel ils entraient est devenue la mentalité du peuple de Dieu. Dieu voulait construire, il a essayé de le faire pendant tout le voyage dans le désert. Il a essayé de construire une culture du royaume. Il a essayé de se révéler. Ce peuple-là avait reçu une identité. Tu es mon peuple. Dieu s'était révélé, il avait donné les lois. Le peuple arrive et dit, mais c'est rien. On va permettre, c'est bien ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, pensez le contraire de ce que pense notre société, vous passez pour un taré. Vous passez pour un fou. Et regardez, perte d'identité. Je vous donne le fil conducteur. Idolâtrie. Et là, pillage de leurs promesses. Alors, et vous connaissez par exemple Gédéon. Gédéon qui finit par se planquer derrière le pressoir. On venait voler les récoltes des gens de la tribu de Gédéon. Alors que cette tribu-là devait se nourrir du fruit, du terrain, du sumi, du labeur, même lorsqu'ils travaillaient, eh bien, on venait leur voler. Et quand Gédéon voyait s'approcher les Madianites, il se planquait dans le pressoir. Vous imaginez ? Ce peuple qui était appelé à posséder, à vaincre, à conquérir, était devenu un peuple de trouillards. Un peuple qui ne possédait pas, un peuple qui mendiait, un peuple qui était sous l'oppression de l'ennemi à cause de son péché. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus les petites statues. On a tellement jugé le catholicisme. Je ne dis pas qu'ils font bien de faire ça. Mais il y a des dieux dans nos vies. Il y a des choses devant lesquelles nous nous prosternons. Il y a des choses dans lesquelles nous nous faisons esclaves de ces choses. Et regardez, ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel. Et là je me dis, moi, si je suis Dieu, je pleure. Je pleure. Parce qu'il avait écrit un si beau livre. Et le film qu'il était en train de voir était le contraire, à l'opposé de ce qu'il avait voulu au tout départ. Lorsque dans son cœur, il a dit, je vais me choisir ce peuple me connaîtra, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, j'habiterai au milieu d'eux. Ils se réjouiront en moi, je les nourrirai. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, qui les livra entre les mains de Pillard. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils firent ainsi. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Et puis, autre conséquence que vous lirez dans le livre des juges, vous apercevrez que non seulement cette génération-là est tombée, mais les autres générations, la génération suivante et suivante et suivante, est tombée. Je vous pose la question, je ne sais pas si vous êtes parents, pour ceux qui sont parents, qu'allons-nous laisser à nos enfants? Qu'allons-nous laisser? Une seule désobéissance à noter et retenir. Je ferai une interrogation la semaine prochaine. À noter et retenir, je fais le prof. Je vais peut-être bientôt devenir prof. Alors, une seule désobéissance peut entraîner un état d'esclavage pour nous et les générations suivantes. S'il n'y a pas de repentance, voilà ce qui arrive. Une seule désobéissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus être complaisant avec la désobéissance dans notre vie. Je sais, hein, c'est pas très pommade baume d'amour, peut-être. Que vous ne prenez peut-être pas comme ça. Je suis vraiment désolé, mais on ne badine pas avec le péché et on ne badine pas avec la justice de Dieu. Il n'y a pas de possession des promesses sans combat et sans mise à mort du péché dans nos vies. C'est pourquoi Jésus dira, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Je suis désolé, mais le peuple d'Israël n'a pas été suffisamment violent pour s'emparer de Canaan. Et nous devons être violents et être intransigeants. Je sais, le « nous devons » vous plaît peut-être pas, mais je n'ai pas d'autre mot pour vous dire que nous devons mettre à mort le péché dans nos vies. Et pour se libérer de toute domination du péché ou du diable, il faut prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes. Et l'épreuve. Alors je ne sais pas si vous êtes interpellé ce matin, en tout cas j'ai prié pour ça, j'ai dit « Seigneur, je ne veux pas paraître comme un légaliste, je veux simplement interpeller ton peuple pour qu'il prenne conscience de l'état de désobéissance dans lequel il est et qu'il prenne conscience que ce n'est pas un évangile à l'eau de rose que tu nous présentes, mais que c'est vraiment quelque chose dans lequel tu veux nous faire entrer pour nous amener à la vraie liberté. » Moi, j'ai envie de chanter dimanche prochain, « Tu as délivré ton peuple pour nous amener dans la vraie liberté. » Parce que je ne veux pas chanter ce chant si je ne le vis pas. Parce que Dieu a tout accompli en Christ pour que je puisse le vivre. Et donc, et l'épreuve souvent nous montre et nous ouvre les yeux. Je ne sais pas si tu es dans une épreuve. Je ne sais pas si tu es dans les difficultés aujourd'hui. Mais sache que souvent l'épreuve m'amène à ouvrir les yeux sur ce que je suis, sur ce que, la manière dont je fonctionne. Et l'épreuve, elle est là aussi pour te montrer. N'y a-t-il pas un verset, pas de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament, que le Père châtie ceux qu'il aime? Et Dieu veut nous châtier parfois. Et un bon coup sur les fesses nous montre, parfois nous ouvre les yeux sur notre manière de fonctionner. Et puis la deuxième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit ça. Je vous l'ai dit, je l'ai rappelé, que Bokim, ça veut dire pleurer, les pleureurs. Mais je peux vous dire une chose, il est écrit que quand l'envoyé de Dieu allait les voir, je ne sais pas si c'est un prophète, si c'est un ange, mais quand il allait les voir et qu'il leur dit « Mais vous avez complètement raté le but, que fait le peuple ?» Ils se mettent à pleurer et ils offrent des sacrifices à l'Éternel. Mais je suis désolé de vous le dire, ça ne suffit pas. Non. Dieu ne cherche pas des pleureurs. Pas uniquement des pleureurs. Je pèse mes mots parce que je ne voudrais pas qu'après on vienne me dire « Il ne veut pas simplement des pleureuses. » Il veut des hommes et des femmes qui renoncent. La tristesse selon l'esprit doit appeler et doit nous appeler au renoncement. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer ? Dans 2 semaines, vous saurez. Damien prendra le relais. Si c'est toujours le cas. Bien, Damien. C'est pourquoi j'ai maquillé CF Damien le 22-9. Voilà. Voilà comment l'art de déléguer le travail. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je dis ce matin. Les choses difficiles, c'est pour lui. Donc, il faut mettre à mort le péché dans nos vies. À mort. Autrement dit, Jésus a été clair sur le sujet. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-il dit ? Il ne dit pas « mets une paire de lunettes noires ». Il ne dit pas « fais comme M. Le Pen, mets un bandeau » ou comme le capitaine Crochet. Il ne dit pas « ferme l'œil ». Qu'est-ce que dit Jésus ? Allez, plus fort ! Arrache-le ! Sois violent vis-à-vis de ce qui te lie. Quand il dit « bah tiens, si ta main est pour toi une occasion de chute », qu'est-ce qu'il dit ? Mets-la dans ta poche. Non. Coupe-la. Vous voyez ce que Jésus est en train de dire ? Pour que tu puisses vraiment entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu ? C'est que tu as ta responsabilité. Vous savez, quand Dieu dit « je chasserai », quand Dieu dit « je mettrai à mort le péché », quand Dieu dit « je renverserai leurs autels », que les choses soient claires, Dieu ne fait pas tout. Il dit « je serai avec toi dans cette vision de la possession du royaume de Dieu ». Maintenant, si je m'arrêtais là, je trouverais Bruno légaliste. Pas vous ? Légaliste ou un peu... Vous me direz, Bruno, il a fait fort. Et moi, je dirais que oui, mais la grâce et la puissance de la croix est là pour nous libérer. Regardez, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son Fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Les enfants d'Israël crièrent et l'Éternel leur suscita un libérateur. À chaque fois qu'un enfant crie à lui, à chaque fois qu'un enfant se rend compte de sa désobéissance, qu'il se rend compte que son livre est mal tourné, qu'il a utilisé un mauvais scénario par rapport au plan divin, à chaque fois que son enfant pleure, à chaque fois qu'un enfant se repent, à chaque fois qu'un enfant renonce, Dieu, que fait-il ? Il envoie un libérateur. Il envoie la vie, il envoie la délivrance, il envoie la liberté. C'est pourquoi nous pouvons chanter que Dieu nous a libérés pour la vraie liberté. Il nous délivre pour la vraie liberté. Et sachez une chose, et ça je veux amener la foi dans nos cœurs, dans ceux qui sont liés dans leur corps, de ceux qui sont liés dans leur cœur, de ceux qui sont liés dans leurs pensées. Je peux vous dire qu'il y a un espoir, bien plus qu'un espoir, une espérance, une foi qui doit venir en nous pour nous dire, parce que Christ a accompli toute chose sur la croix. Il a anéanti la puissance du péché. Il a anéanti la puissance de la mort. Il a anéanti la puissance qui te lie. Parce qu'il est le libérateur. Dieu a suscité un grand libérateur. Le libérateur. Il est dit dans Ésaïe, on t'appellera celui qui comble les brèches. Voyez, à chaque fois que tu t'aperçois que dans la muraille de ta vie, que quelqu'un, le diable, que le péché peut entrer. Sache une chose, Jésus est celui qui comble les brèches, celui qui veut fermer, qui veut en rendre ta vie complètement hermétique au péché. Waouh ! Encore faut-il que tu sois conscient de la faille qui est dans ta muraille. Encore faut-il que tu comprennes les domaines de ta vie qui doivent changer. Et ça, tu ne peux le comprendre que par l'action du Saint-Esprit qui va t'éclairer. Et parfois les frères et les sœurs qui sont souvent là pour nous éclairer aussi. Regardez ce qu'il est écrit en Actes. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Et Dieu a envoyé son Fils pour faire le montage du film, de la vidéo de ta vie. Vous savez tout ce qui ne correspond pas. Vous savez ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et ce qu'il veut faire dans vos cœurs. Il veut couper les portions de votre vie. Il veut prendre les portions de ta vie qui ne sont pas en conformité avec son scénario initial. Il veut mettre ça au feu. Il veut le détruire. C'est pourquoi il est écrit qu'il amène le péché au fond des mers, qu'il ne s'en souvient plus. Parce que lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu ouvres enfin les yeux sur ta vie, lorsque tu regardes, ouvres enfin les yeux sur la manière dont ta vie est et que tu te mets devant l'écran du film de ta vie, ne regardes-tu pas ta vie comme quelqu'un de honteux, quelqu'un qui a envie de se cacher. Et Dieu veut couper cela. Il veut rétablir toute chose et retourner quelques scènes avec toi, des scènes de sainteté, de pureté, de repentance, de grâce, d'amour dans sa présence. Oui, Dieu a oint son saint serviteur Jésus, son Fils unique. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a oint son Fils. Et le résultat, c'est délivrance de puissance démoniaque. C'est libération de la puissance du péché. Guérison. Satan est celui qui opprime. Jésus est celui qui délivre. Et Dieu veut que nous soyons délivrés et guéris du péché et de ses conséquences. Voilà le projet de Dieu pour toi. Voilà ce que représente Canaan. Un pays d'une vraie liberté, un pays où la grâce, où la vie, où la puissance de Dieu se manifeste, un pays où tu seras victorieux, un pays où tu arrêteras de pleurer, pas un pays de pleurs, un pays de lamentation sur toi-même, mais un pays de vie, un pays de liberté. C'est ce que Dieu veut communiquer à chacun de ses enfants. Et j'ai une déclaration pour vous, Jésus est mon libérateur, il est celui qui me guérit. Il a été oint du Saint-Esprit pour détruire les œuvres du diable dans ma vie. Voilà ce que est mon Jésus à moi. Y compris le péché, la maladie, l'infirmité. Je crois que Jésus m'a délivré du péché. Je le crois par la foi. Et parce que Dieu dit, pas en fonction de ce que je ressens, pas en fonction de la montagne qui est devant moi. Parfois, il y a des péchés qui ressemblent à des montagnes. Or, Dieu te dit, si ton péché ressemble à cette montagne, que dois-tu lui dire ? Ôte-toi de là. Va-t'en, péché. Je renonce à ce péché parce que Dieu m'a délivré de cela, de la maladie et de l'infirmité. Tout posséder en Christ, c'est cela. Tout posséder, c'est vivre le film de ma vie qui correspond au scénario de Dieu pour moi. Et c'est ce que je désire pour chacun d'entre nous, pour cette communauté et pour tous ceux qui auront la grâce un jour de venir ici. Je le souhaite de tout mon cœur. Je prie pour cela. Je prie pour moi aussi. Parce que vous savez, j'ai dû renoncer à deux choses cette semaine dans ma vie. Deux choses. Où le Seigneur m'a dit, tu sais Bruno, tu devrais renoncer à ça aussi. Ça ne correspond pas à ce que tu veux. Et croyez-moi, il y a une lutte quand on veut renoncer. Mais Damien vous aidera dans deux semaines à renoncer à cela.